Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. 12 jours de répression en Iran et déjà 75 morts selon une ONG. Mais la colère des femmes obligées de porter le voile ne faiblit pas. Et c'est tout un peuple qui semble ne plus supporter cette chape de plomb islamique. L'Info C'est Clair est intitulé « Iran, les femmes font vaciller le pouvoir ». Nos invités, Mariam Pirzadeh, vous êtes journaliste à France 24 et vous avez été correspondante à Téhéran jusqu'en 2019. Georges Malbruno, vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. À lire sur le site du Figaro votre article, hein, « Iran, le pouvoir opte pour la répression ». Et puis je cite votre dernier livre, « Le déclassement français », coécrit avec Christian Chesneau. C'est publié chez Michel Lafon. Et puis enfin, David Rigoulet-Rose, vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, et puis vous venez de diriger la rédaction du livre « La République islamique d'Iran en crise systémique, 4 décennies de tourments ». C'est publié aux éditions de l'Harmattan. Merci de participer à cette émission en direct. Donc on l'a dit, hein, 12 jours que l'Iran est secoué par de violentes manifestations suite à la mort de cette jeune femme qui a été arrêtée parce qu'elle portait un voile mal ajusté. La répression, donc je l'ai dit, aurait déjà fait 76 morts selon une ONG. Sujet de Thibaut Franceschet.
Elle attache ses cheveux dévoilés face à des policiers iraniens avant d'être tuée par balle, 6 exactement, selon des journalistes locaux. Son nom, Hadis Najafi. Elle avait 20 ans, une nouvelle victime de la répression iranienne. Depuis la mort de Mahsa Amini, arrêtée le 13 septembre par la police des mœurs pour un voile mal porté et morte 3 jours plus tard, la révolte ne faiblit pas en Iran. Tous les soirs, de jeunes iraniennes mais aussi des iraniens sortent exprimer leur colère dans les rues du pays. Ici, 2 femmes marchent tête nue. Là, une autre brandit fièrement le voile qu'elle a retiré. Sur cette vidéo, une iranienne entonne le chant de révolte Bella Ciao en persan. Toutes veulent dire stop au port du voile obligatoire. Mais le voile n'est pas le seul problème. En Iran, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes aux yeux de la loi. Elles sont sous l'autorité de leur père, puis de leur mari.
Georges Malbruno, c'est pas la première fois que les Iraniens se révoltent, mais ce qui fait la particularité de ce mouvement, et peut-être sa dangerosité pour le pouvoir, c'est que c'est un mouvement qui est parti des femmes exaspérées, on va le voir. Il y a même des femmes, ça a été filmé, qui brûlent leur voile et les autres applaudissent.
Voilà.
On voit les images là.
Oui, alors, c'est vrai que c'est pas une révolte qui est inédite, mais ce qui est inédit, c'est effectivement que ces femmes iraniennes, aujourd'hui, en ont assez de ce voile qu'elles portent depuis 43 ans, et elles se sont révoltées, et à cette révolte s'est agrégé, je dirais, d'autres déceptions, d'autres rancunes, d'autres colères accumulées depuis en gros une quinzaine d'années. En 2009, vous aviez eu des élections truquées à la présidence de la République. Et là, vous aviez eu vraiment une menace très très forte pour le pouvoir. J'étais là-bas, il y avait 2 millions de personnes qui manifestaient. Un hélicoptère était à la guidance pour éventuellement évacuer le guide. Il y avait une vraie menace sur le régime, ce qui n'est pas le cas encore, on y reviendra aujourd'hui. Mais là, on est dans une menace à la fois, ce qui est, je dirais, sociopolitique, sociale, parce qu'il y a ce voile qui est lourd à porter. D'autant plus que depuis 1 an et demi, avec l'avènement du nouveau président de la République, ultra-conservateur, la police des mœurs est devenue plus sévère, qu'on assiste à ce que j'appelle une calcification du pouvoir autour d'un noyau dur dans la perspective de la succession du guide Ali Khamenei qui est âgé. Et donc, si vous voulez, tout ça fait que, en plus d'une crise économique sévère liée aux sanctions américaines, à l'incurie des politiques publiques menées en Iran depuis une quinzaine d'années, à l'absence de liberté aussi, un durcissement, eh bien, vous avez cette juxtaposition, une espèce de fusion des colères. Et c'est dans ce sens-là que la révolte aujourd'hui est singulière, quoi. On y reviendra, elle n'est pas... Le régime, vous l'avez vu, a réagi comme il le fait habituellement. Il nie, il minimise, et ensuite il coupe les réseaux sociaux et il réprime, c'est ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'est une révolte de plus dans cette chaîne des mécontentements qui est quand même déjà importante depuis une quinzaine d'années.
Mariam Pirzadeh, Quelle est la situation des femmes aujourd'hui en Iran? Au fond, une petite fille de 8 ans, sa vie tracée, son avenir, c'est quoi?
Non, alors attention, l'Iran, c'est pas l'Afghanistan.
Mais justement, non, c'est pour ça.
Non.
Parce qu'on dit que les femmes sont très éduquées. Enfin,
elles sont extrêmement
voilà.
éduquées.
Donc c'est pour ça que je vous pose la question.
Bien
Quelle est la situation des femmes?
Elles sont beaucoup plus nombreuses sur les bancs des universités que les hommes. Elles ont la capacité, avec des études, elles avaient, parce que maintenant, effectivement, il y a une crise économique sans précédent qui touche l'Iran et qui provoque un chômage de plus de 50%. Mais il y a des femmes qui sont...
Il y a plus de femmes à l'université
bien sûr,
que
elles sont
de garçons.
Elles sont beaucoup plus nombreuses.
Pourquoi le régime fait-il la promotion des femmes à l'école alors
Non, parce qu'elles savent très bien, qu'elles vont s'en sortir grâce à l'école, grâce à une situation professionnelle. Aujourd'hui en Iran, vous avez des femmes qui pilotent des avions de ligne, vous avez des femmes qui dirigent des entreprises, vous avez des femmes qui sont députées, qui ont été ministres. Moi, lorsque j'étais en Iran, sous Hassan Rouhani, il y avait le plus fort taux de femmes au Parlement, elles dirigent des galeries d'art. Enfin, je veux dire, elles font leur place dans la société grâce à leur travail. Alors effectivement, une petite fille, depuis le moment où elle rentre à l'école, donc en CP, à 6 ans, elle a le porte, ce qu'on appelle le marnae. C'est un voile cagoule, en fait, pour pas avoir les cheveux. Donc c'est vrai que depuis qu'elles ont 6 ans, elles portent le voile. C'est pas comme en Arabie Saoudite, ça s'est vraiment relâché ces dernières années. Mais c'est vrai que si jamais une femme est mariée, elle veut sortir du pays, il faut qu'elle demande l'autorisation de son mari. Et on a vu ces dernières années, notamment des footballeuses, des femmes qui jouaient au football, qui devait se rendre à l'étranger pour une compétition. Son mari, pour les raisons qui lui appartiennent, avait refusé qu'elle parte et donc lui avait empêché de partir, de quitter l'Iran. Et là, ça avait provoqué aussi une sorte de bronca sur les réseaux sociaux. Et elle s'était affirmée en disant « voilà, je vais divorcer, moi je veux ma liberté ». Donc ce qu'on voit, moi ça ne me surprend pas de les voir dans la rue se battre. Elles risquent leur vie, elles se font tuer là.
Mais qu'est-ce que reprocher à ce régime qui leur offre l'école, qui leur offre des places de ministres et de pilotes d'avion? Comme vous l'avez fait remarquer, par rapport à la situation des Afghanes ou des femmes d'Arabie Saoudite, la situation des Iraniennes est bien plus enviable.
Elle reproche, effectivement, il y a une agrégation de crises politiques. Même si ces jeunes filles sont sur les bancs d'université, elles ont assez peu de chances de trouver un travail parce que c'est très compliqué aujourd'hui de trouver un travail. Aujourd'hui, les jeunes en Iran, globalement, pour 70% d'entre eux, voire plus, lorsqu'ils sortent des universités, ils ne trouvent pas de travail. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se marier, ils sont obligés de vivre chez leurs parents, et ça crée des frustrations. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont 37-38 ans qui vivent encore chez leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas travailler. La crise économique qui touche l'Iran a avalé les classes moyennes. Il n'y a plus de classes moyennes en Iran.
Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas forcément contre le voile.
Non, elle ne manifeste pas contre le voile. Elle manifeste contre les obligations qu'on leur fait, c'est-à-dire de porter le voile. Il n'y a pas que le voile. Il y a une tenue. On appelle ça un manteau. C'est un mot français qui a été repris. C'est une tunique. C'est tout, en fait. Elle ne supporte plus qu'on leur dise quoi faire depuis 43 ans. Et vous voyez, il y a aussi des personnes plus âgées. Il y a des grands-mères qui sont dans les rues. Il y a évidemment des hommes. On en a parlé. C'est plus un mouvement de femmes, c'est devenu un mouvement social.
David Rigoulet-Rose, Georges Malbruno le disait, c'est pas la première manifestation. En 2009, vous le disiez, il y a eu 2 millions. Et le pouvoir a tenu bon parce que le pouvoir, il mate. Il coupe Internet et il mate. Est-ce que les images qu'on a vues, une fois de plus, on essaie de voir la singularité de ces deux semaines qu'on vient de vivre, est-ce que le fait de voir des Iraniens s'en prendre à des voitures de police, on dit par moment que la peur a peut-être changé de camp. Est-ce qu'on prend nos désirs pour des réalités en commentant ces images de manifestants qui s'en prennent à des voitures de police?
Il faut être prudent parce que de toute façon, la logique répressive est une constante dans le cadre du régime. Mais c'est vrai que là, il y a quand même quelque chose d'assez différent, de singulier. Parce que par rapport aux précédents mouvements de manifestation, les gens ne courent plus pour se cacher. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à affronter les forces de l'ordre. Il y a des policiers, enfin des membres des forces de sécurité qui ont été lynchés. Et donc, il y a l'idée que finalement, risquer sa vie fait partie de l'enjeu. Et ça, c'est assez nouveau. L'autre singularité, c'est qu'au début du mouvement, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais c'était quand même, c'était effectivement sur la question du voile, mais qui est c'est l'abcès de fixation, parce que c'est l'ADN du régime. En réalité, ça renvoie à un ensemble de prescriptions. Et donc, et c'est les femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, entre guillemets, les femmes ont préempté l'espace public au début des manifestations. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont seules, puisqu'elles ont été rejointes par la jeunesse masculine. Notamment, il y a les membres de l'équipe de football iranienne qui les soutiennent, qui ont été d'ailleurs stigmatisés par le régime. L'autre aspect, c'est que c'est transclasse. On dirait un peu convergence des luttes en France.
C'est pas mais... l'Iran bobo des non. grandes non. villes, c'est ce que
non.
vous voulez
non,
dire.
Non, justement, c'est ça qui est intéressant parce que finalement, les familles se disent, Mahsa Amini, ça pourrait être ma fille. Le père se dit, ça peut être ma fille. Et le frère dit, ça peut être ma sœur. Donc ça touche tout le monde. Et ce qui explique qu'il y ait effectivement un, que ça ramène beaucoup de gens. C'est pas du tout comme les mouvements liés à la situation économique où ça touchait notamment les classes populaires, etc. Là, c'est transgénérationnel. On a vu des femmes de 60 ans qui avaient été tuées. Hein. Donc,
des mères de famille.
Des mères de famille. Donc c'est quelque chose d'assez singulier et inédit. Et c'est pour ça que le régime est quand même très inquiet.
Régime très inquiet. C'est que la fille de l'ancien président Rafsanjani a été arrêtée. Accusée d'avoir incité les habitants à manifester ça. Est-ce que ça dit quelque chose, ça, quand... la fille d'un des hauts dignitaires du régime, elle-même, est du côté des manifestants.
Oui, mais elle l'est depuis longtemps, et le clan Rafsanjani est dans le, collimateur depuis longtemps. Donc c'est, comme David le disait, effectivement, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir, ils se sont quand même un peu tirés une balle dans le pied, le régime, même si c'est conforme au durcissement qu'on a observé depuis un an et demi. Mais est-ce que... ils vont pas. Il y a deux options. Ou ils répriment à mort, etc. Ou alors ils font un petit peu ce qu'on parlait de l'Arabie Saoudite, ce que Mohamed bin Salman a fait en Arabie Saoudite. Vous savez, le prince héritier, un peu impétueux pour le moins, c'est de dire la police religieuse, on la garde, mais on la laisse à la maison. C'est-à-dire, elle apparaît moins. Ce qui se passait un petit peu avant, jusqu'en 2000, sous Rouhani, moi, quand j'allais à Téhéran, les femmes, dans le nord de Téhéran, un peu bourgeois, etc., conduisaient leur voiture, le voile était tombé. Dans certains quartiers, même de Téhéran, elles osaient marcher pendant 30
secondes. Il y avait eu une libéralisation.
Voilà, c'était à l'iranienne, c'est-à-dire,
tolérance.
Une tolérance, voilà. Après, il y a eu le durcissement.
Aujourd'hui, avec ce nouveau président.
Avec ce nouveau président. Et dans l'optique, encore une fois, il faut y revenir, de ce durcissement du régime, qui veut revenir, le guide l'a dit, à une espèce de pureté idéologique et révolutionnaire. Il est vieux, il a 83 ans, la succession se prépare, son fils Mojtaba est là, avec les gardiens de la révolution, les services de renseignement, et ils sont dans cette optique-là. Et c'est ce qui explique ce durcissement. Donc s'ils sont malins, rationnels, le régime iranien est souvent rationnel. Là, on va voir s'il l'est. On garde la police religieuse, on les laisse à la maison et on permet aux gens de retrouver un peu une vie à peu près normale. Mais je ne suis pas certain que ce soit leur calcul, parce qu'ils sont quand même dans une optique plutôt répressive et jusqu'au boutiste.
Quel âge, vous me disiez, le président ?
83, le guide suprême.
Ebrahim Raisi ?
Non, le président Ebrahim Raisi, qui est en gros le président de la République, mais qui correspond chez nous à le Premier ministre. D'accord. Le vrai détenteur du pouvoir.
C'est le guide suprême, 83 ans, dans un pays... où 60% de la population a moins de 35 ans dans un pays donc très jeune, une jeunesse qui a peu voté aux dernières élections de juin dernier. Ben justement, à quoi rêve-t-elle cette jeunesse ? Quelle est-elle cette jeunesse ? Je vous propose de revoir ce sujet qui avait été tourné par Stéphanie Pérez en juin 2021, donc juste avant les élections.
Les plus fervents partisans du régime iranien sont au rendez-vous dès l'ouverture des bureaux de vote et devant les caméras de la télévision nationale. Leur candidat, l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi, figure de l'appareil iranien et grand favori, ses adversaires sérieux n'ont pas eu le droit de se présenter. Cet ingénieur de 29 ans a décidé de lui faire confiance.
Il veut lutter contre la corruption, il veut changer le pays. Quand il était juge, il a montré qu'il était solide.
Mais pas de foule, pas d'engouement dans les bureaux de vote. Le taux d'abstention pourrait battre des records. Discrètement, un jeune homme nous interpelle. Il est fébrile, veut garder l'anonymat, mais tient à exprimer sa rage.
90% des Iraniens veulent changer de régime. Lors des manifestations de 2019, le régime a tué 1500 personnes en deux jours. Les Iraniens haïssent ce régime. Nous voulons en changer. Il faut que les pays européens nous aident en ce sens.
Désabusée, une partie de la jeunesse boycotte le scrutin, comme ce groupe d'amis issus de la classe moyenne. Depuis le retour des sanctions américaines, Erfan, étudiant en gestion bancaire, ne pense qu'à une chose, partir.
Je ne vois pas d'avenir ici. Ceux qui restent ne trouvent pas de travail en rapport avec leurs études. Le gouvernement n'a pas su investir pour nous créer des emplois. La seule chose qu'il sait faire, c'est scander des slogans.
Son amie Erin, cheveux teintés en rose, veut partir au Japon pour ses études de chimie et pour plus de liberté individuelle. Elle et ses amis font tomber leur voile de plus en plus souvent même si elles sont régulièrement arrêtées.
J'avais l'espoir qu'avec l'ancien gouvernement réformateur, la condition des femmes s'améliore. Mais les années ont passé et ça ne s'est pas arrangé. Alors mon look, c'est ma façon de m'affirmer. Je veux dire aux autres, soyez vous-même, n'ayez pas peur, même si on vous met dans un fourgon de police, comme moi.
Une génération qui n'a pas connu la révolution islamique de 1979 et qui ne croit plus en aucun camp politique. Comme beaucoup de jeunes entrepreneurs, Mehdi Ramezani a monté sa start-up de gadgets électroniques au moment où l'Iran misait sur l'ouverture avec l'étranger. Aujourd'hui, sa société est pénalisée par les sanctions économiques. Il n'a pas voté.
J'ai souvent envie d'abandonner, tellement les difficultés financières peuvent surgir de façon imprévue. Moralement, on paye un lourd tribut à ces tergiversations politiques. C'est épuisant.
Une génération fatiguée qui s'adaptera au probable prochain gouvernement ultra-conservateur, comme d'habitude.
Mariam Pirzadeh, vous me disiez pendant le reportage que ces jeunes femmes, la jeune femme qui avait les cheveux un peu teints en roux, précisément, c'était ce qu'on voyait avant. Et qui est interdit aujourd'hui, c'est ça ?
Ça l'a toujours été interdit. Ça a toujours été interdit, mais c'est vrai que Hassan Rouhani, qui était un président réformateur, a été au pouvoir pendant 8 ans. Et durant sa présidence, il avait donné une consigne tacite à ces fameuses polices des mœurs, donc Gashte Ashot, qui veut dire la police de la guidance islamique, de se faire moins visible. Donc il y avait moins d'arrestations pour un peu relâcher la pression justement sur cette jeunesse. Mais moi j'ai vu, bien sûr, mais ce que fait la jeune fille avec les cheveux rouges, c'est incroyablement courageux. Et ça montre bien aussi le courage qu'elle a, que cette jeunesse a aujourd'hui. Parce que quand des caméras étrangères viennent interviewer des Iraniennes en Iran, elles remettent le foulard pour l'interview.
Parce qu'elles savent que le régime est susceptible de regarder le reportage.
Bien sûr, parce que le régime, la République islamique va regarder, c'est évident.
C'est extrêmement audacieux.
Ce qu'elle fait, c'est d'un courage sans nom. C'est-à-dire qu'elle dit, faut s'assumer. Et ce qu'on voit, c'était en juin 2021. Là, on est en septembre 2022. C'est logique. En fait, c'est ça. Effectivement, Ebrahim Raisi arrive au pouvoir en juin 2021. Il faut aussi rappeler qu'il a été élu, parce que ça c'était pendant l'élection, il a été élu avec le taux de participation le plus bas de toute la République islamique, sachant que tous les candidats réformateurs ont été évincés. Donc c'était sûr qu'il allait gagner cette élection, et depuis son arrivée au pouvoir, il a remis ses vannes blancs de la police des mœurs dans les rues, il a remis une pression sur les femmes, parce qu'ils veulent que ces femmes se revoilent, et qu'elles reviennent. Mais on ne peut plus maintenant imposer un mode de vie religieux, des préceptes qui datent de 43 ans de la révolution islamique, à une jeunesse qui représente 60 à 70% de la population, qui est ultra connectée, qui sait exactement ce qui se passe à l'étranger, qui a une soif de modernité incompressible. C'est plus possible, en fait.
David Rigoulet-Rose, c'est vrai qu'on est frappé en regardant ce reportage par la modernité de cette jeunesse. On est quand même dans un pays qui est entouré de l'Afghanistan et l'Irak. Et là, on a une jeunesse très occidentalisée, avec tout ce que ça peut véhiculer. Et par rapport au caractère rigoriste de ces chefs d'État, là, comme vous le disiez,
C'est le paradoxe de l'Iran aujourd'hui par rapport aux autres pays d'ailleurs du Moyen-Orient. C'est qu'il y a une superstructure, un pouvoir qui est un pouvoir fossilisé, calcifié, dont l'ADN renvoie à 1979, qui dirige, qui gouverne, mais un peu à vide, une société qui est totalement dans une situation de totale défiance. C'est-à-dire, elle a été sécularisée de plus en plus ces dernières décennies, et donc le gap...
Sécularisée, c'est-à-dire que les mosquées sont vides en Iran ?
Oui, souvent les mosquées sont vides. Les gens ne pratiquent pas. Donc il peut y avoir une piété, j'allais dire, personnelle, singulière, mais ce n'est pas du tout, justement, dans un cadre étatique avec... quand on voit les manifestations de femmes avec le tchador, etc., c'est une mosquée qui est utilisée pour l'image extérieure, mais en réalité, la population iranienne, elle ne s'intéresse plus du tout à ça. Elle a d'autres aspirations. Alors, on dit occidental, en tout cas, oui, il y a une forme de rêve d'Occident, d'une certaine manière, pouvoir partir au Canada, dans le reste du monde, d'une certaine manière, comme toute la jeunesse souhaite le faire. Et donc là, le pouvoir est totalement déconnecté. Et c'est le risque, il est là-dessus, c'est-à-dire qu'il va s'arc-bouter. Il n'a pas d'option, en fait. Il va s'arc-bouter soit, ce que vous disiez, sur une répression accrue, soit ce serait accepter de, on va dire, éventuellement, de remettre en cause l'interdiction du voile, mais ça remettrait en cause son propre ADN. Et je vois pas très bien comment il pourra gérer ça.
Georges Malbruno, est-ce qu'on peut mater comme ça une population ? Combien de temps ça peut durer ?
Ah oui, non, ils peuvent mater, ils l'ont fait en 2009, ils sont prêts à tout, ils ont le monopole de la force, il n'y a pas de structure politique derrière eux. Ils ont
mais un
justement...
peuple qui n'adhère plus et qui n'y croit plus, apparemment.
Mais j'avais posé la question, moi, il y a 3 ans, à Hossein Shariat Madari, qui est un proche du guide suprême, etc.,
ultra conservateur. Je lui ai dit, si un jour vous avez 500 000 iraniennes qui posent le voile soudainement, qu'est-ce que vous faites ? Il me dit, calmement, on en met 1 million dans la rue et on réprime. Voilà, et c'est ce qui pourrait se passer si ça continuait. Donc, le régime n'est pas menacé, etc. Mais cette réaction-là, forte, répressive, elle est logique, encore une fois, avec l'orientation qui est donnée depuis 1 an et demi, par rapport à ce que je vous disais sur la calcification du pouvoir, parce qu'ils sont dans cette optique de succession du guide suprême, donc période délicate, et donc, ils ont commencé de d'épurer l'administration, les hommes d'affaires, de tout ce qui était présence réformatrice. En gros, quand même, depuis une quinzaine d'années, vous aviez eu Hassan Rouhani, Khatami dans les années 97, dont des gens plutôt présentables. Khatami qui a critiqué la gestion du régime, surtout. Donc, ils ont purifié. Et ce qu'ils ont fait, moi, je l'ai écrit il y a quelques mois, ils arrêtaient des businessmen qui étaient avec des réformateurs. Et ils leur disaient, vous êtes révolutionnaire, vous êtes anti-révolutionnaire ou vous êtes arrévolutionnaire. Jusqu'alors, si vous étiez anti-révolutionnaire, évidemment, vous alliez en prison. Si vous étiez révolutionnaire, vous étiez très bien. Si vous étiez arrévolutionnaire, vous étiez toléré. Aujourd'hui, quand on est arrévolutionnaire, c'est-à-dire on reste à la maison en silence, on n'est même plus toléré. Ah, et donc là, on le voit. On voit aussi ce qui se passe avec la fronde contre le voile qui, comme ça a été dit, est un pilier et dans l'ADN du régime, on ne le tolère plus. Et donc, ça rentre dans ce cadre de ce durcissement de ce pouvoir. Voilà, parce que il perçoit qu'il est contesté en interne, qu'il est surtout à une période charnière compte tenu de la succession du guide suprême.
Alors, on l'a compris, le régime s'est durci et c'est ce qui provoque cet abcès de colère. Justement, qui est-il, cet Ebrahim Raïssi, qui est au pouvoir depuis juin 2021 ? Je vous propose de voir son portrait et des éléments de contexte avec ce sujet de Stéphanie Pérez.
Voici donc le nouveau visage de l'Iran. Ebrahim Raïssi, religieux élu par la base conservatrice iranienne, partisan d'une ligne dure. Mais dans ce quartier populaire, ce n'est pas pour des questions religieuses ou sociétales que le chef de l'appareil judiciaire inspire confiance.
Il a dit qu'il allait aider les gens les plus pauvres. Dans ses jugements, il a toujours défendu les plus démunis.
Il est dans les institutions depuis le début de la République islamique. Il est donc plus puissant. Il a plus de marge de manœuvre que les autres.
Pour ces Iraniens, il est un incorruptible compétent pour gérer la violente récession actuelle. Pour le guide suprême Ali Khamenei, 82 ans, le nouveau président est l'homme qui peut assurer la survie du système iranien, malmené par la crise. Une priorité. L'Iran doit-il s'attendre à un nouveau durcissement sur les libertés individuelles ? Quand nous interrogeons cette jeune femme qui ne porte pas le voile, pourtant obligatoire, l'entretien illustre de façon imprévue notre questionnement.
Il a l'air plus religieux que les autres. On pourrait en subir les conséquences. Déjà aujourd'hui, on n'est pas libre de nos mouvements et ça va sûrement empirer.
Un homme nous interrompt et lui demande de remettre son voile. L'étudiante s'exécute. Une commerçante vient nous expliquer les raisons de ses précautions.
Il y a un homme qui vous filmait. Il fait partie des services de renseignement. Il dit qu'elle n'a pas le droit de faire ça.
Nous lui demandons si elle craint une augmentation de la pression sur la population.
Ça ne va pas s'améliorer, c'est clair, ça va empirer. De toute façon, ils ne font rien pour les gens comme moi qui ne faisons que travailler.
Partisan assumé de l'ordre, Raïssi aura pour mission de contenir la colère. Son sombre passé de juge, marqué par le traitement sévère des dissidents, suscite les craintes des défenseurs des droits de l'homme.
Mariam Pirzadeh, est-ce que ce durcissement du régime, il ne s'accompagne pas d'une grande déception de la jeunesse qui se dit, en fait, ce régime n'est pas transformable. Et quand la jeunesse est désespérée, le désespoir, on n'a plus rien à perdre.
Non, bien sûr qu'il n'est pas réformable. S'il y a un changement, ça viendra de l'intérieur, ça ne va pas venir de ces manifestations. Là, on est à un tournant, moi, je pense, de ce mouvement, avec notamment des appels à la grève qui ont été lancés dans les universités. Il y a des professeurs qui refusent de reprendre les cours tant que leurs étudiants sont arrêtés, tant que la répression continue. Il y a un appel aussi qui a été lancé.
Les écoles sont tenues. Et les universités par l'État,
de Téhéran, hein, bien sûr. Il y a eu des mouvements étudiants dans les années, à la fin des années 90 également. Il y a un appel à la grève d'employés du secteur du gaz et du pétrole, des chauffeurs de bus aussi. Et maintenant, on voit que ce mouvement, alors il y a ces manifestations. Il faut dire aussi une chose, c'est que là, comme Internet s'est coupé, on a beaucoup moins de vidéos de ce qui est en train de se passer en Iran. Ça, c'est sûr. Donc, les Iraniens...
Comment vous faites ? Vous téléphonez ? Vous avez des...
Dès que les personnes avec qui je converse ont un peu d'Internet, ils m'écrivent, mais ça se coupe très rapidement. Mais les
Iraniens...
Vous n'avez
pas peur que ce soit surveillé,
je fais très attention, bien sûr. Bien sûr, il y a des personnes à qui je ne contacte plus parce qu'il y a des personnes que j'ai contactées qui ont été arrêtées. Donc, c'est peut-être pas lié au coup de fil qu'on a eu, mais parce qu'elle se trouvait dans les manifestations. En tout cas, bien sûr, on peut les mettre en danger, effectivement. Donc, les Iraniens qui sont pleins d'ingéniosité, qui arrivent à contourner depuis 43 ans les restrictions, surfent sur Internet avec des VPN. Donc, ils ont parfois 10, 15 VPN.
VPN qui permet de masquer, oui. de passer outre.
De se rendre sur les réseaux. Ils ont trouvé d'autres systèmes. Ils vont dans les rues, ils klaxonnent, ils vont sur les toits des immeubles, ils crient des slogans. Ça s'est passé comme ça lors de la révolution islamique en 79. Donc c'était l'inverse, c'était pour renverser le dernier Shah d'Iran, le dernier roi d'Iran. Donc là, il y a plein d'ingéniosité. Mais bien sûr, là, ce qu'on voit dans ce reportage, c'est tellement symptomatique, la délation. Lorsque l'ayatollah Khomeini fonde la République islamique en 79, pour bien, comme il se méfie de tout le monde, donc il crée l'armée des gardiens de la révolution, les Pasdaran, parce qu'il se méfie de l'armée impériale du Shah, donc pour vraiment garder cette révolution. Et il dit aux Iraniens, si un de vos voisins, vous voyez qu'un de vos voisins ne mène pas cette vie islamique ou représente un danger pour la révolution islamique, n'hésitez pas à le dénoncer. Et là, cette jeune fille qui parle, qui est encore une fois extrêmement courageuse parce qu'elle parle sans voile, il y a quelqu'un qui vient filmer, qui va aller montrer cette vidéo. Et là, effectivement, dans les manifestations, il y a aussi des hommes qui viennent filmer. Donc le danger, il est multiple pour ceux qui manifestent aujourd'hui.
Georges Malbruno, on parlait de l'ayatollah Khomeini, hein, qui a instauré la République islamique d'Iran. C'était 1979, il y a 42 ans, dans un pays où, on l'a dit, 60% de la population a moins de 35 ans. Qu'est-ce qui représente Khomeini pour les Iraniens? C'est le Lénine ou c'est...
Il représente... Alors, pour être quand même objectif, vous savez, il y a quand même 25 ou, allez, si on est généreux, 30% d'Iraniens qui soutiennent la République islamique. Là. 30, je suis peut-être un
Et
peu
pourquoi
généreux.
Pourquoi le soutiennent-elles? Pour parce des motifs religieux pour ou des... bien parce qu'ils y trouvent leur compte?
Voilà, les deux. Il y a les affidés, il y a des conservateurs, il y a des gens... Quand il y a eu les obsèques de Qassem Soleimani, ce général iranien qui a été assassiné par les Américains à Bagdad en 2020, janvier, il y avait quand même 2 millions de personnes dans la rue. Donc voilà, il y a 20-25% d'Iraniens qui soutiennent ce régime.
Il y a un socle quand même pour
soutenir le régime. Il y a un socle, il ne faut pas le nier. Mais si vous voulez, on assiste à la somme des déceptions qui sont nombreuses depuis 97. Khatami, élu président de la République, réformateur, 99, révolte, lui fait allusion étudiante, maté. Ensuite, on a eu un Ahmadinejad qui vient, qui stoppe tout ça. Rouhani, de nouveau, espoir. Maté, l'accord nucléaire, les Iraniens espèrent.
Mais
Trump...
Mais plus personne ne croit au paradis vert. Les gens s'accommodent ou...
Alors, voilà, ce qui se passait, c'est que vous aviez un
c'était
régime...
C'était un rêve, quand même, en 79, la République. Enfin, c'était un rêve.
C'était un rêve.
C'était un objectif.
C'était un objectif de mettre fin à une période qui était, pour beaucoup, assez sombre. Mais vous aviez un régime. Et là, j'en reviens au cours de ces 30 dernières années, qui de temps à autre, c'est un régime, rationnel et qui Mariam, tu l'as vu sur place, qui savait jauger la population. Les filles laissaient tomber le voile, on disait rien, il y avait un peu d'argent avec le pétrole, etc. Et donc, il y avait une espèce de consensus. Les Iraniens, en 2009, ont essayé de faire une nouvelle révolution, ils ont été sévèrement réprimés. Ensuite, moi, ce que me disaient les Iraniens, on ne veut pas faire de révolution de nouveau, parce qu'on sait qu'on en a fait une en 79, ça nous a coûté des centaines de milliers de morts. On veut une évolution du régime. Le problème, c'est que 10 ans après 2009, plus, il n'y a pas d'évolution possible. Les réformateurs ont été laminés. Et c'est bien le problème de ce mouvement social, c'est qu'il n'y a pas de récupération politique derrière. Et donc,
il n'y a pas de leader.
On est dans l'impasse. Et le régime a réussi. Enfin, à écarter toute contestation politique. Et donc, alors, on est dans une impasse, mais qui peut être dangereuse. Parce qu'encore une fois, si vous avez quand même 500 000 femmes qui, demain, posent le voile, ou le régime matera cette révolte parce que ils ont le monopole de la force et ils entendent bien l'utiliser. Cela étant, même s'il n'est pas menacé aujourd'hui ou à court terme, c'est un régime qui est en crise de légitimité profonde. Quand on va aux élections présidentielles, que vous faites la somme des voix au premier tour des candidats qui sont issus du système, vous arrivez à 25% avec 30% d'abstention. Donc ça veut dire que les gens... Alors je sais bien que Macron, au premier tour, a eu en France, je ne sais pas...
52% d'abstention au premier tour.
Donc si vous voulez, c'est un régime qui est un peu quand même idéologiquement, en tout cas, à bout de souffle.
Ouais,
David Rigoulet-Rose. Ce régime, il semble indéboulonnable, quoi. Finalement, il est solidement installé et ça n'est pas cette petite, manifestation. Même s'il y a des professeurs d'université qui manifestent.
Même un appel à l'armée, hein, ouais. Artesh. Alors, qui était faite.
Si l'armée se
retrouve, Hubert Védrine disait tôt ou tard, il tombera.
Non, alors, de toute façon, il est condamné. Structurellement, il est condamné parce qu'il est dysfonctionnel et il ne peut pas répondre aux attentes de sa population. Bon. Le paradoxe, c'est qu'il y a une réussite. Il a éduqué, c'est la République islamique qui a éduqué une population qui, aujourd'hui, lui renvoie ses aspirations. Donc, il est totalement en contradiction
c'est
avec
lui-même. C'est le drame de la Tunisie de Ben Ala, ça.
Oui, mais il peut pas se
parallèle. Et...
Oui, en partie, mais pas tout à fait, parce qu'il y a quand même une spécificité iranienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, il a joué sur le fait qu'il n'y avait pas d'alternative, et que les Iraniens, qui sont un peuple éduqué, rationnel, n'ont pas envie de connaître une deuxième révolution, et n'ont pas envie non plus de connaître les attendus. Parfois désastreux des printemps arabes. Et donc effectivement le régime joue là-dessus, il parie là-dessus, c'est-à-dire qu'en sachant qu'il n'y a pas d'alternative crédible pour se substituer à lui, même si évidemment c'est un jeu extrêmement dangereux, parce que moi j'exclus pas quand même qu'il y ait un point de bascule avec ce qui se passe en ce moment, parce que c'est quand même assez inédit et que la réponse qui sera répressive vraisemblablement ne sera pas comme pour les autres mouvements suffisante pour, pouvoir circonscrire le feu qui est parti.
Mariam Pirzadeh, je vous ai coupé tout à l'heure. Non. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, c'est effectivement, là, moi, je pense qu'on a un tournant de ce mouvement. Il y a une population, enfin là, le divorce est consommé. En fait, il y a tous les ingrédients, c'est un peu ça, d'une, même s'il y a beaucoup de points communs avec la révolution islamique de 79, il y a deux armées en Iran, ce que je vous disais, il y a l'armée régulière et l'armée des gardiens de la révolution. Et tant que cette armée est encore du côté du système, effectivement, rien ne peut changer. Mais c'est un système qui est contesté dans les urnes, qui est contesté dans la rue, donc il va falloir, je regardais les dernières réactions, parce que là, il y a uniquement les réactions officielles auxquelles on a accès du chef de la diplomatie iranienne qui disait c'est pas possible comme ça de faire un coup d'État en Iran. Le système de la République islamique va tenir. Et c'est ce que disait Georges Malbruno. S'il faut réprimer, ils réprimeront. Là, il y a des journalistes. On estime, c'est sûrement beaucoup plus, qu'il y a 17 journalistes qui ont été arrêtés. Ceux notamment qui se sont entretenus avec la famille de Mahsa Amini, des photographes. Là, les geôles sont pleines. À un moment donné, il va falloir entendre cette colère. On ne peut plus faire appliquer vraiment un mode de vie religieux, des restrictions à une jeunesse qui représente 60%. Là aujourd'hui, les Iraniennes, elles font beaucoup moins d'enfants qu'en France. Une défaite. C'est une défaite pour le guide suprême qui lui avait lancé la politique nataliste. Il a notamment fermé les plannings familiaux. Il a restreint l'accès à la contraception pour justement pousser les Iraniennes à faire des enfants. Là, elles en font moins qu'en France. Donc ça veut dire que il y a beaucoup d'Iraniennes aujourd'hui qui font le choix soit de ne pas se marier, soit de ne pas avoir d'enfants.
Et ça, c'est la grève du ventre.
Et ça, ça représente un défi pour les autorités en place.
Alors, oui.
Il y a eu aussi, il faut le souligner, au sein de notamment des religieux, d'ailleurs proches de Khamenei, du guide suprême, qui ont critiqué aussi ça. Donc, il faut vraiment, je ne sais pas si on est à une bascule, mais il faut voir quelle réponse quand même. Ce régime qui, même si c'est calcifié, il n'est pas complètement irrationnel, je pense, parce qu'ils ne sont pas suicidaires, les Iraniens, enfin le régime iranien, donnera à cette révolte. Mais si, comme tu l'as dit, ici, il n'y a qu'une option, c'est la répression. Effectivement, ils arriveront à leur fin, mais dans 6 mois ou dans 20 ans,
il y aura une nouvelle révolte.
Il y a des religieux, même à Rom, qui commencent à s'exprimer, avoir des voix dissidentes. Donc c'est...
Alors néanmoins, attention, mais on n'a pas pris nos rêves pour des réalités depuis le début de cette émission, à prédire trop rapidement la chute du régime des Mollahs. Je vous dis ça parce qu'il y a 10 ans, c'était les printemps arabes, il y a plus de 10 ans, et les dictateurs tombaient les uns après les autres, et Bachar el-Assad, on pensait en 2011 qu'il allait chuter. Eh bien, 11 ans après, il est toujours là. Et vous me parliez tout à l'heure des Iraniens qui regardent terrifiés les échecs des printemps arabes. Eh bien, regardez ce que vit, le calvaire que vit le peuple syrien depuis 11 ans, et il y a toujours Bachar el-Assad. C'est un sujet de Marine Zambrano.
Un pays dévasté, ruiné, détruit. Après 10 ans d'un conflit acharné entre pro et anti-Bachar el-Assad, le bilan le plus tragique de cette guerre sans pitié est humain. Plus de 388 000 morts, dont 22 000 enfants. Et plus de 13 millions de déplacés, ce qui représente près de 60% de la population contrainte de fuir son foyer. D'autres n'ont pas pu s'exiler, comme Mohamed Abou Erdan, qui vit dans un camp au nord d'Alep. Né en 2011, il n'a connu que la guerre.
On avait une maison, on allait à l'école tous les jours, j'étudiais. Puis on a été déplacés ici et ils ont détruit notre école et nos maisons.
À la place, il part travailler 10 heures par jour dans cette usine de produits nettoyants. Comme lui, 2,5 millions d'enfants ne peuvent plus se rendre à l'école, soit parce qu'elle a été détruite ou bien réinvestie pour abriter des familles ou des militaires. Une nouvelle génération qui doit se construire dans un pays détruit par les bombes, des villes entières rasées, comme ce quartier de la ville de Hama. Ici, vu de haut, en septembre 2012, même endroit un mois après, en bleu, les destructions après bombardement, il n'en reste plus rien. Les monuments historiques n'ont pas été épargnés, ici Alep en 2016, déjà défiguré. Presque tous les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ont été endommagés ou détruits. Alors après 10 ans de guerre civile, le pays est méconnaissable. Pourtant un visage subsiste, celui du président Bachar el-Assad, toujours au pouvoir après une décennie de combats pour tenter de le renverser.
David Rigoulet-Rose, on sait que l'Iran soutient le régime syrien.
Ah oui, ça a été un soutien déterminant.
Pour Bachar el-Assad, pour se maintenir au pouvoir.
Oui, bah, il est intervenu dès 2013-2014.
Et pourquoi,
avant les Russes. Parce que ça rentrait... D'abord, la Syrie était un des seuls pays arabes alliés de l'Iran. L'Iran n'oublie pas ses amis. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, c'est important. Et l'analyse qui a été faite à Téhéran, c'est que dans le cas de la Syrie, c'était pas la même chose que les autres pays arabes. Il y avait un complot extérieur qui était destiné à faire tomber Bachar el-Assad. Et donc,
est-ce que l'Iran s'est peut-être dit, si la Syrie chute, après, on va commencer à
surtout la Syrie constituait l'étape intermédiaire avec le Liban du Hezbollah. Donc, c'était une pièce centrale que Téhéran pouvait pas se permettre de perdre pour assurer la continuité en termes logistiques, etc., avec le Hezbollah. Et donc le soutien a été sans état d'âme. Il a été effectif et réussi de ce point de vue-là, puisqu'il a été en plus aidé ensuite par l'intervention russe. Mais incontestablement, c'est ce qui explique que il y a eu un soutien déterminé pour Bachar el-Assad, et c'est ce qui le permet d'être au pouvoir aujourd'hui.
Georges Malbruno, la Syrie, c'était le dernier pays de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Alors, vous n'avez pas 2 heures, mais finalement, ces printemps arabes,
c'est plutôt des hivers islamistes. Et des échecs, parce qu'aucun n'a réussi. L'Égypte, c'est une restauration de Moubarak en empire. La Tunisie, c'est du Ben Ali en empire. Le Yémen est en plein chaos. La Syrie, on n'est pas arrivé à renverser Bachar el-Assad. Et il est aujourd'hui, il sera tôt ou tard réintégré par la plupart des pays arabes. Et voilà, parce qu'on a été, alors vous disiez tout à l'heure, on a été, nous, Français, on a été un peu emportés par cette une espèce de...
On s'est dit, après la chute des pays communistes d'Europe de l'Est,
compagnonnage avec les dictateurs. Donc on a été un peu épris dans le romantisme révolutionnaire auquel moi j'ai pas beaucoup cru, parce que je connais Bachar el-Assad et son système, comme le système iranien. Ils sont très forts. Ils sont très forts pour réprimer, pour sauver leur peau. C'est une question existentielle pour eux. Ils sont prêts à tout pour sauver leur peau. Et donc, voilà. Et donc, ça a été ces printemps arabes. Alors, cela étant, ça a été un échec. Mais les raisons pour lesquelles les gens sont révoltés existent toujours. Et donc, dans 20 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, il y aura de nouvelles révoltes, etc.
Mariam Pirzadeh, est-ce que justement, vous me disiez tout à l'heure, les Iraniens, ils voient bien ce qui se passe en Syrie et ça réfrène leur envie de révolution, de se dire, attends, finalement... Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de liberté, mais on vit décemment en Iran.
Ils vivaient décemment.
Quel regard portent-ils sur cette situation?
En fait, effectivement, ils se disaient, l'Iran, il faut quand même se rendre compte que c'est un pays qui, depuis l'instauration de la République islamique, a connu 8 ans de guerre, un embargo, 13 ans de sanctions, et qui tient encore debout. C'est-à-dire que vous allez aujourd'hui en Iran, il y a des routes, c'est un pays qui fonctionne, qui fonctionnait en tout cas avant qu'il y ait ces sanctions occidentales, mêlées évidemment à mauvaise politique. Mais moi, ce que me disaient beaucoup d'Iraniens, c'est, voilà, on voit ce qui se passe en Afghanistan, si jamais il y a une nouvelle révolution, qui nous dit pas qu'il y aura des talibans qui vont arriver? Bien sûr qu'il y a énormément de craintes. La Syrie aussi. La Syrie, et ils savent très bien aussi, les Iraniens, et ça c'est... dans un domaine, ils sont aussi en colère contre leur gouvernement d'aider la Syrie, d'aider l'Irak, d'aider le Hamas, d'envoyer beaucoup d'argent, parce qu'ils ont besoin de cet argent. Et d'ailleurs, quand vous voyez aujourd'hui, il y a des journées, les journées Rhodes, les journées de la Palestine, pour montrer son soutien à la Palestine, il y a quasiment personne maintenant dans ces journées. Parce que les Iraniens disent, mais nous, alors, c'est nous, on veut manger aussi. Là quand j'entendais des Iraniens qui, avant l'élection, disaient, Ibrahim Raisi va nous aider, il va arrêter la corruption, il va nous aider à manger. il a baissé les subventions. Il y a une inflation de 60% sur le pain, sur les pâtes. Il y a des Iraniens qui mangent plus de viande, qui n'arrivent plus. Je vous dis, la classe moyenne a été complètement avalée par cette crise économique endémique. On estime que la moitié de la population iranienne vit sous le seuil de pauvreté, avec une difficulté de se loger, de vivre. Les Iraniens aujourd'hui cumulent 2-3 jobs pour pouvoir survivre et pouvoir entretenir leur famille. Donc évidemment, ils voient cet argent qui part à l'étranger et ils le vivent assez mal. Mais les Iraniens, encore une fois, savent exactement ce qui se passe en dehors de leurs frontières. Lorsqu'il y avait le mouvement des Gilets jaunes en France, moi, je recevais des messages alarmistes, alarmés de personnes en Iran. Ça va, on voit des images de guerre, les Champs-Élysées sont en feu, est-ce que tu es en vie et tout ça. Je veux dire, ils savent exactement très bien ce qui se passe ailleurs. Et 79, ce qui s'est passé en 79, pour eux, c'est une expérience. Et effectivement, à la place d'une révolution, ils veulent une évolution. Et c'est ça qu'ils demandent aujourd'hui. Ils veulent voir leur statut évoluer.
Et ils ne veulent surtout pas d'intervention extérieure. Ah. Il y a un aspect aussi qu'on néglige dans la mentalité, dans l'âme iranienne, c'est le nationalisme. Ils ne veulent surtout pas d'intervention extérieure. Et donc, ça nous conduit sur les négociations nucléaires. Quand on entend Israël dire « on va taper », etc., il ne faut surtout pas, parce que les Iraniens ne veulent pas d'une intervention extérieure.
Alors, justement, le nucléaire, on parlait d'un pays très avancé, très éduqué, d'un pays qui, malgré les sanctions économiques, continue de fonctionner et est au seuil de la bombe nucléaire. Je vous propose de voir ce sujet, alors qui date d'août 2021, mais depuis il y a eu des progrès, mais quand même, il explique très bien ce sujet qui a un peu plus d'un an, 13 mois, de Marine Zambrano.
C'est le serpent de mer de la diplomatie internationale, le nucléaire iranien. La peur pour les Occidentaux est toujours la même, que les Iraniens se dotent de la bombe atomique. La position de l'Iran sur ce sujet est claire. Ils veulent simplement développer l'énergie nucléaire pour produire plus d'électricité. Comme en témoigne la construction de cette centrale, mise en service dès 2011. Pourtant, dans les faits, la réalité semble bien moins évidente et pour cause. Les puissances occidentales s'affolent aujourd'hui car l'Iran se rapprocherait dangereusement des capacités de production d'uranium enrichi nécessaires pour fabriquer l'arme nucléaire. Concrètement, pour fabriquer une bombe, l'enrichissement de l'uranium métal doit être poussé à 90%. Aujourd'hui, l'Iran aurait produit pour la première fois de l'uranium enrichi jusqu'à 20% et ne cesserait d'augmenter sa production. Pour Téhéran, il s'agit toujours d'activités purement civiles, évidemment. Si l'Iran joue la confusion quant à ses intentions réelles, c'est pour s'éviter les sanctions internationales qui l'isoleraient du reste du monde, comme ce fut le cas avant l'accord à Vienne en 2015. Mais aujourd'hui, ce jeu de dupes est de plus en plus difficile à tenir, puisque le pays ne cesse de violer cet accord. Coup de canif dans le contrat que les Occidentaux ont du mal à faire payer à Téhéran, puisqu'eux-mêmes ne sont pas exemptes de reproches. En effet, les États-Unis se sont carrément retirés de l'accord 3 ans après les avoir signés et ont rétabli leurs sanctions contre l'Iran, alors que les termes du contrat étaient jusque-là respectés. La faute à Donald Trump, largement décriée par les autres pays signataires. Joe Biden, lui, se dit en faveur d'un retour des États-Unis dans l'accord et tous appellent l'Iran à reprendre les négociations.
Alors, Georges Malbruno, ce sujet date d'août 2021. On a parlé d'uranium enrichi à 20%. Il faut 90 hein, pour une bombe nucléaire. Mais maintenant, ils disposent de 43 kilos d'uranium enrichi à 60%. C'est écrit, l'Iran va devenir une puissance nucléaire ?
Non, pas encore, mais ils sont au seuil. Ils ont le savoir-faire. Et donc, dans les négociations qui ont lieu depuis un an et demi, justement, ils jouent un peu sur le temps, imaginant que le temps joue pour eux, que l'hiver sera rude pour nous et que, par conséquent, tôt ou tard, on aura besoin de l'énergie iranienne. Et donc, ces négociations qui étaient sur le point d'être conclues en février, qui ne l'ont pas été parce qu'il y a eu l'intervention russe, les Russes ont demandé aux Iraniens...
Qu'est-ce que ça change s'ils ont la bombe nucléaire ? Parce que les manifestations... Non, mais en interne, si on considère que ce régime est menacé par sa population qui n'en peut plus, que le fait d'avoir la bombe nucléaire, ça les protège contre leur population ?
Non, en interne, ça ne change rien, ça le sanctuarise. Ça veut dire aussi que la prolifération, l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Égypte vont vouloir sauter le pas. Ça veut dire aussi que peut-être Israël serait tenté par une aventure militaire.
Non, mais que ça change vis-à-vis des autres pays. Oui. Mais en interne, est-ce que ça ne change rien pour le... quel regard la population
porte. Ils sont fiers, voilà.
Mariam Pirzadeh.
Le discours officiel, c'est une sourate du Coran qui dit, voilà, c'est ce que indique Ibrahim Al-Raissi, il a encore rappelé à l'ONU, l'Iran ne veut pas la bombe. C'est ça le discours officiel. Là, honnêtement, l'accord sur le nucléaire et la puissance nucléaire de l'Iran, c'est un peu le cadet des soucis des Iraniens. Voilà. Il y a une très très forte déception. Ce qui est bien dit dans ce sujet, les Iraniens se sont certes affranchis de l'accord, mais il ne faut pas oublier que nous, on est loin d'être irréprochables, nous, Européens. Oui, lorsque Donald Trump sort de manière unilatérale, on n'a trouvé aucun moyen de pouvoir commercer avec l'Iran, parce que cet accord, il est encore en vie, là. Enfin, ouais. Il est en vigueur jusqu'en 2025, c'est ça, 2024 ouais. ou 2025. On n'a pas réussi. Donc les Iraniens sont extrêmement déçus. La population est très déçue de nous parce qu'ils attendaient beaucoup et nous, on n'a pas réussi à respecter aussi. Donc la réponse des Iraniens a été de s'affranchir. Et ils y vont en plus très, très graduellement. Ils ont mis du temps à reprendre, parce qu'effectivement, ils avaient fermé 4/5 de leurs centrifugeuses. Enfin, ils ont vraiment joué le jeu, hein, les Iraniens, sur cet accord. Mais David, aujourd'hui, honnêtement, c'est le cadet des soucis des Iraniens.
David Rigoulet-Rose, on a vu la menace Vladimir Poutine qui agite un grand pays comme la Russie, avec soi-disant des leaders responsables, qui agitent la menace nucléaire, de savoir que l'Iran, que la Corée du Nord sont au seuil du nucléaire. Est-ce que ça pose la question de la prolifération de cette arme et de sa dangerosité au XXIe siècle?
Dans le cas de la Corée, c'est même plus une supplication, parce que c'est une puissance avérée. Dans le cas de l'Iran, c'est justement l'Iran a toujours eu une ligne en disant que c'était pour le nucléaire civil, ce qui fait d'ailleurs la fierté effectivement des Iraniens qui considèrent que ça montre que l'Iran est une puissance technologique. Mais ça ne veut pas dire que la population souhaite la bombe. Ça, c'est éventuellement le régime pour d'autres raisons. Oui, il y a un risque de prolifération, comme vous l'évoquez, comme Georges Malbruno l'évoquait, avec justement un phénomène de mimétisme très dangereux qui pourrait être celui de la Turquie, de l'Égypte, etc. D'ailleurs, c'est dans les cartons, hein, clairement. Hein. Et donc, on sait très bien qu'en termes nucléaires, une augmentation arithmétique du nombre des détenteurs induit un risque géométrique beaucoup plus important, c'est-à-dire que c'est un multiplicateur. C'est pour ça qu'on essaie de limiter au maximum le nombre des détenteurs de la bombe, parce qu'on sait que le risque est démultiplié quand il y a un nombre plus important. Et donc, c'était l'objet de l'accord, du JCPOA. C'était pour effectivement geler à la fois non seulement pour l'Iran, mais aussi geler une potentielle dérive prolifératrice. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un échec largement imputable à Donald Trump, il faut le reconnaître. Même si l'accord était imparfait, il était globalement un précédent utile, une réussite diplomatique qu'il aurait fallu pérenniser effectivement, mais là on est malheureusement, c'est un peu plié compte tenu du contexte.
Georges Malbruno, qui s'inquiète le plus de voir l'Iran doté de l'arme atomique?
La France, beaucoup.
La France,
qui est toujours on est, comme le disait un télégramme diplomatique américain de 2010, à la pointe du glaive. On est parce qu'il y a l'antiprolifération a été un combat permanent en France, parce qu'il y a le souci de faire plaisir à nos alliés commerciaux du Golfe, à Israël, etc. Donc la France est dans les négociations. Laurent Fabius en 2015 a été vu comme un peu l'empêcheur de tourner en rond.
Non, mais moi je pensais à qui se sent menacé, Israël, je pensais.
Bien sûr, parce que vous avez eu des déclarations iraniennes, disons. Il faut rayer de la carte Israël. Simplement, les dirigeants iraniens, aussi ultra-conservateurs soient-ils, ne sont pas suicidaires. Ils savent très bien que si jamais il y a une bombe atomique qui est lancée sur Israël, leur pays est vitrifié. Donc, est-ce qu'ils ont aujourd'hui la volonté de se sanctuariser avec la bombe atomique? Peut-être. Ils voient aussi, et le guide l'a vu et a encouragé quand même, a donné son feu vert en 2015 alors qu'il était sceptique, et encore en 2019 lorsqu'il y a eu la relance des négociations, à négocier. Pourquoi? Parce que les caisses de l'État sont vides, et y compris ses propres caisses, qui sont dans un budget parallèle, etc. Donc la logique voudrait qu'on arrive à cet accord pour permettre à l'Iran de relancer un petit peu son économie et de donner un peu d'argent, justement, sur la table aux Iraniens qui protestent. Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce que là, ça va être un test, justement, de la rationalité supposée de ce régime? Savoir, est-ce qu'il y aura un accord après les mid-terms, les élections américaines, ou pas?
Et 2015 n'est pas la situation qu'on connaît en 2022, là. Avec le rapprochement avec la Russie, les Iraniens ont les deuxièmes réserves de gaz au monde, ils savent très bien qu'ils peuvent aussi...
Ah, ils ont une carte à jouer.
Ils ont une carte à jouer sur ça.
Mariam Pirzadeh, vous le disiez tout à l'heure, la priorité du gouvernement iranien en ce moment des autorités, c'est absolument pas la bombe atomique, c'est quand même la contestation en interne. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours? Quels sont... Pour les pays arabes, je me souviens, on surveillait le vendredi soir après la prière, mais là, David Rigoulet-Rose nous dit, mais il n'y a plus personne dans les mosquées en Iran. Alors,
les vendredis...
Enfin, je caricature.
Les Iraniens ne sont pas pratiquants, ils sont mystiques.
Ils sont sont chez eux.
Le jour de la prière, c'est plutôt les pros, ceux qui défendent la République islamique qui sortent. Donc, ce qu'il faut surveiller vraiment avec attention, c'est les appels à la grève et ce mouvement, est-ce qu'il va continuer à perdurer, les vidéos qui sortent, qui ont de plus en plus de difficultés, mais vraiment les grèves, je pense que ça peut faire basculer, et les voix dissidentes aussi qu'on entend de plus en plus. Là, par exemple, vous parlez du joueur de foot Karimi, qui est extrêmement populaire en Iran. Il défend ce mouvement des femmes comme beaucoup de personnalités publiques. Et là, les gardiens de la Révolution ont appelé à son arrestation.
Son site a été bloqué, d'ailleurs.
Ouais. Mmh. Ouais. Bon. Donc, il faut parler de l'Iran. Il faut continuer à parler d'eux parce qu'ils risquent gros en manifestant. Et vraiment, c'est un message que moi, je reçois quand je peux, quand j'ai des nouvelles. C'est continuer à parler de ce qui se passe.
Et vous l'avez très bien fait pendant cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé à cette info. C'est clair. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée sur France Info. À demain.